moi je suis en train de vous bailler au Cassin Oriental. J'ai réussi totalement ce qui...
Moi c'est Céline de Bourbaki au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans cette émission spéciale 70 ans des Nations Unies en direct de Bukavu. Les Nations Unies célèbrent donc ce lundi la journée internationale de la paix. C'est l'occasion de réfléchir sur les activités des Nations Unies pour le rétablissement et la consolidation de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo en général et dans la province du Sud-Kivu en particulier. Après plusieurs années de conflits, de troubles, de violences politiques, de révélations, d'exemples de rébellion en rébellion, la ville de Bukavu, une des principales villes de l'est de la République démocratique du Congo à proximité de la frontière avec le Rwanda, a-t-elle une chance de s'engager vers une paix durable? Qu'en pensez-vous? En direct, vous pouvez intervenir au 081 41 57 17 et vous pouvez également nous faire parvenir vos messages sur notre page Facebook. Nous sommes dans la salle polyvalente du collège Alpha Djiri de Bukavu pour célébrer cette journée de la paix avec la population de Bukavu. Julie Feza Bongonda réalise cette édition spéciale depuis la ville de Bukavu, chef lieu du Sud-Kivu. Jean-Claude Siala est à la mise en onde de ce programme dont la transmission dès le metteur au récepteur est assuré par Jacques Bossenga. J'ai le plaisir de vous présenter et coordonner depuis Bukavu ce nouveau numéro de parole aux auditeurs spéciales. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous sous vos applaudissements.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.org. Parole aux auditeurs, J.R. Nguema. Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Merci à vous tous ceux qui avez répondu à notre invitation. Dans cette salle, nous saluons la présence des élèves des classes de 6e année du collège Alpha Djiri. Nous saluons aussi la présence de la société civile et la nouvelle société civile de la ville de Bukavu ici présente sous vos applaudissements. Nous saluons également la présence de tous acteurs politiques et combattants du terroir sous vos applaudissements également. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons choisi les collèges Alpha Djiri pour cette émission spéciale. Pas au hasard, il n'est un secret pour personne que le collège a une histoire dans les événements d'insécurité qu'a connu la ville de Bukavu. Dans une de leurs publications, les missionnaires d'Afrique Sud-Kivu parlent de la troisième guerre au Sud-Kivu et relatent les événements tels que vécus dans les camps des enseignants du collège Alpha Djiri du mercredi 26 mai au samedi 29 mai 2004. Un enseignant nous rafraîchit la mémoire dans cette salle. Alors nous avons le plaisir de vous présenter M. Louis Matumo, qui est professeur de français dans les classes de 6e année. M. Louis, si vous pouvez peut-être nous relater ce que vous avez vécu concrètement en ce qui concerne la troisième guerre.
Merci M. le journaliste, mais d'entrée de jeu,
je dois vous avouer que l'organisateur de cette rencontre elle me demande de parler des événements qui ont endeuillé les collègues, ou encore davantage, tous les Kivu, toute la ville de Bukavu, sous Mutebusi. Je voudrais vous dire que, en mai 2005, la guerre de M. Mutebusi sur la ville de Bukavu a stoppé toutes les activités dans la ville et a paralysé toutes les activités scolaires et même spirituelles au collège. Des militaires bien armés s'introduisaient dans nos maisons, dans les camps des professeurs pour demander mieux, pour rafler les téléphones, les appareils et nous menacer de mort. Certains élèves que nous avions connus cherchaient même à nous ridiculiser, en nous demandant de nous agenouiller et de leur donner de l'argent. C'était des élèves qui appartenaient à une certaine ethnie. Alors qu'en fait, dans la région ici, nous estimions que toutes les ethnies jouissaient du même traitement.
Pendant plus de trois semaines, aucune classe n'a ouvert. La paroisse était fermée. Les militaires de la Monique étaient présents au collège. Alors qu'une fraction de l'armée de M. Moutéboussi avait envahi notre terrain de football, si bien que aucun élève, aucun professeur ne pouvait fréquenter le collège. L'on se demandait alors si nous allions connaître une année blanche. Par grâce,
la situation
s'est calmée petit à petit et à un moment donné, nos vaillantes forces, celles de l'armée nationale congolaise, je veux dire les forces RDC, ont attaqué ces forces-là et les ont boutées dehors. Nous retrouvions la paix. Peu après, les classes vont ouvrir et petit à petit, une poignée d'élèves sera
retenue
dans nos classes.
Merci beaucoup, M. Louis. Alors, nous allons nous tourner vers Kizito, qui est dans ce studio avec nous. Nous le recevons, Kizito Boulindi, un politologue, qui pourrait renchérir les idées du professeur Louis. Est-ce que vous pouvez nous retracer encore, de voir des mémoires, ce qui s'était passé cette fois-là?
Oui, je salue tous les auditeurs et tous ceux qui nous suivent de partout au Congo. Je confirme ce que mon prédécesseur venait de dire là, c'est-à-dire la guerre de Moutéboussi. Seulement, je vais d'abord un peu corriger, ce n'était pas en 2005, c'était en 2004.
2004, oui.
C'était en 2004. Et nous étions surpris, nous étions dans la ville. Et quand Moutéboussi commençait déjà à échanger avec le général Niabiola, c'était tout près d'ici au collège, hein, où le général Niabiola habitait. Et d'un coup, c'était un après-midi là, on a entendu des coups de balles commencer à crépiter toute la ville. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais au lendemain, deux jours après, il y a eu d'autres revendications. On croyait que c'était un problème personnel du général Niabiola, qui était recherché maintenant un peu partout dans la ville, dans les couvents, dans les maisons, et qu'on n'a pas retrouvé. Quelques temps après, il a été secouru avec le général Nkunda, qui lui disait qu'il venait maintenant dans la ville libérer une communauté. Et il est passé dans le territoire de Calais, jusqu'à arriver ici. Alors, ici au collège, la ville était déjà divisée en deux. Il y avait d'abord un cantonnement de militaires de Moutéboussi, de l'autre côté. La partie gérée par l'armée congolaise, c'était la partie du collège que vous voyez jusqu'à Nyawera et de l'autre côté, et de Ngouba ici au collège jusqu'à la frontière là-bas, c'était une autre partie. Et c'est comme ça qu'il y a eu des échanges, mais
je suis complètement enregistré des pertes en vie humaine.
Nous avions eu des pertes en vie humaine, des pertes matérielles, comme l'a dit mon prédécesseur. Ces militaires sont entrés dans nos maisons, on a violé des filles, des femmes, et on a pris des téléphones, on demandait les dollars, c'était la seule monnaie qu'on demandait.
Alors c'était la troisième guerre, ce qu'il y en a eu.
Là c'était la troisième guerre. Oui, là c'était la troisième guerre, et puis nos militaires s'étaient retranchés. Quelques temps après, évidemment avec la collaboration de la Monique à l'époque, bon. Évidemment, on a cru que c'était par une forte pression internationale et d'une manière diplomatique. Ces mêmes militaires de Moutéboussi sont passés par les quartiers Essence et la plaine de la Ruzizi et ils ont pris une autre direction vers le Rwanda. Et ceux-là qui étaient du camp de Kunda, qui sont venus à renforcement, ont pris un bateau ici, le bateau Isengimana, qui aujourd'hui n'est pas opérationnel. Sont rentrés vers Goma, bon, Et c'est comme ça que la ville était libérée et le général Mbouza Mabé est rentré encore en force dans la ville.
Merci beaucoup, Kizito, de nous avoir brossé cette historique. Nous allons rejoindre dans la salle si aujourd'hui on peut encore accorder cette chance à la ville de Bukavu de s'engager vers une paix durable. Et là, nous allons retrouver dans la salle Amos Bissimois. Amos Bissimois, aujourd'hui, est-ce qu'au regard de l'avenir, on peut dire que le Sud Kivu a une chance de s'engager réellement vers une paix durable?
Je ne saurais pas le confirmer, tout en sachant que la paix c'est un processus. Mais je me dis, si nous essayons de revoir ce que tout le monde venait de dire, les deux intervenants et qui ont précédé, nous devons comprendre que tout ce que nous avons connu comme guerre, comme insécurité, et que nous continuons à connaître aujourd'hui, prouve d'abord la faiblesse de notre État. Parce que tout ce qu'on a démontré, il y a eu des étrangers qui sont entrés au Congo et qui nous ont causé du tort. Cela s'explique par un seul fait, est que le Congo a un État qui est très faible. Tout en reconnaissant que la situation que nous avons connue dans l'État passé n'est plus celle que nous connaissons aujourd'hui, je voulais juste dire que les Congolais, et plus particulièrement les Sud-Kivuciens, ne peuvent jamais s'attendre à une paix durable tant que nous aurons des dirigeants qui ne seront pas, qui ne seront pas éliminés ou réduits. Tout ce qui blesse ou tout ce qui dérange la quiétude de la population. Et là, je voulais juste appuyer ce que je viens de dire en disant qu'il faut mettre fin au chômage dont la jeunesse est victime aujourd'hui. Il faut donner à la population du courant, il faut donner à la population de l'eau, que nous sommes en train d'aller mendier actuellement au Rwanda. Il faut donner à la population de bonnes infrastructures. Voilà. Si du moins nous avions des dirigeants responsables, s'ils parviendraient à répondre à tout ce que je viens de dire là, j'espère bien qu'on aurait la paix. Mais quand il y aura tout ce que je viens de dénoncer, qui va faire la population?
Oui, mais vous avez aujourd'hui des autorités issues des élections transparentes, libres et démocratiques.
Des autorités issues des élections transparentes et démocratiques, c'est vous qui les dites. Mais je pense, si nous avons ces autorités, mais qui ne parviennent pas à répondre aux attentes de la population, voilà ce qui crée l'insécurité aujourd'hui au Congo, plus particulièrement à l'est de la République.
Voilà, donc pour vous, vous allez passer le micro à Georges Mungu et Koka, pour aussi avoir son point de vue. Lui, il est le président du Parlement des jeunes. Alors, Georges, est-ce que pour vous, vous êtes aussi sceptique comme l'a dit tout à l'heure Amos?
Non,
ou peut-être vous regardez positivement les choses?
Non, donc moi, je ne suis pas beaucoup sceptique de ce qui concerne donc notre gouvernement, puisqu'il a beaucoup martelé de ce qui concerne le bilan, premièrement du gouvernement, au lieu de s'atteler du bilan donc des missions des Nations Unies. Donc le gouvernement, à l'époque, était encore fragile. Donc nous venions spécialement donc, de l'État donc, qui porterait au déchirement du territoire national. Alors, moi, je ne peux pas dire que non, donc, que nous avions connu des autorités qui n'avaient pas qualité d'être. Mais aujourd'hui, alors, donc, nous sommes en train donc, d'évaluer le bilan de la MONUSCO ici en RDC. Jadis, Monique, voilà que nous saluons beaucoup de ce qu'ont fait de nous les Nations Unies, puisqu'ils ont porté d'abord à l'unification du territoire national. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ont porté à organiser des élections démocratiques transparente et libre à RDC. Deuxièmement, ça. Et aussi, nous avions vu, dans nos contrées, il y a la MONUSCO qui finançait des projets à impact rapide de construction des écoles et d'addiction d'eau. Nous saluons ça aussi. Mais maintenant, de ce qui concerne nos autorités aujourd'hui, moi, je ne vais pas en parler, puisque donc il y en a autant qui fustigent, bien sûr, l'État dans lequel nous vivons. Nous tous, nous sommes des jeunes et nous sommes en train de fustiger les temps que nous
voilà.
Sommes en train de courir.
Donc, on fait d'une pierre deux coups. C'est vrai, vous avez évoqué l'aspect implication de la population elle-même pour arriver à consolider cette paix. Nous avons dans ce studio les acteurs politiques, la société civile également. Nous commençons par l'AFDC qui est un parti politique numériquement dans la majorité du pouvoir, qui au fait a donné beaucoup de députés provinciaux et qui participe à la gestion de la chose publique au Sud Kivu. Alors, nous avons Tibson Lidumbu, porte-parole fédérale de l'AFDC, Alliance des Forces démocratiques du Congo. Il faudrait aujourd'hui une implication de la population, c'est-à-dire un travail qui doit être fait par les partis politiques, en tout cas dans son volet sensibilisation, pour qu'on arrive à cette finalité.
Merci beaucoup, J.R. Je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit que, d'une manière générale, la paix est en train de revenir dans notre pays, et il demande l'implication de la population. Vous savez, l'État n'a pas toujours existé. L'État a été créé à un certain moment, et il était créé pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et quand nous parlons des missions régaliennes de l'État, nous disons que l'État qu'on appelait l'autrefois l'État gendarme n'avait qu'une seule mission, de sécuriser les personnes et les biens, donc l'intégrité du territoire national. Mais lorsque nous disons que la paix est une affaire de tous, c'est-à-dire quoi? L'État qui dispose de tout l'appareillage sécuritaire a aussi besoin de la participation des citoyens pour qu'ils puissent efficacement répondre qu'ils puissent efficacement remplir les missions qui lui sont reconnues. Et donc, nous avons par exemple dans nos villages, je voudrais ici parler de Moutaroule, dont on a vraiment suffisamment parlé. Et l'autre fois, nous étions avec les amis dans un studio. Moi, j'ai dit, aucune opération de l'envergure de celle que nous avons commise à Moutaroule ne pouvait avoir lieu sans que certains citoyens vivant à Moutaroule ne soient informés. Le comble de ceci, c'est que, ayant été informé, personne n'est allé vers les services de l'État pour dire, écoutez, il y a ceci, il y a cela qui se trame. Et ici, je voudrais asseoir mon raisonnement sur la pensée d'un auteur dans la théorie cybernétique de Karl Nietzsche, qui dit qu'on gouverne sur base des informations. Et lorsque vous laissez tout à l'État, vous ne l'appuyez pas, vous ne fournissez pas les informations pouvant permettre à l'État de prendre des dispositions, et qu'est-ce que vous voulez dans cet état-là?
Donc vous voulez dire que la population ne participe pas à la consolidation de la paix?
La population, comme a dit le professeur, devrait encore faire davantage. Parce que tous ces bandits, tous ces brigands, les grands chemins, dorment dans les maisons. Il suffit qu'on le montre.
Est-ce que c'est le point de vue que partage actuellement la société civile? Parce que là, on va donner le micro à Descartes qui est à côté. Mais laissons peut-être de prendre également professeur Chibangou. Vous êtes encore en ligne?
Je vous suis, je suis en ligne.
Voilà. Comment réagissez-vous par rapport à ce que vient de dire notre invité de tout à l'heure, de l'AFDC?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec notre ami de l'AFDC. Je voulais ajouter à ce sujet en disant que le président Oufeti Boigny de Côte d'Ivoire a dit quelque chose de très important à propos de la paix. Il a dit que la paix, ce n'est pas un slogan. La paix, ce n'est pas un simple mot. La paix, c'est un comportement. La paix, c'est un comportement. Et donc, il faut insister encore lourdement, Gérard Longuembo. Il faut que les auditeurs de Radio Okapi comprennent cela. Et la paix, c'est la chair des Congolais. Ce n'est pas la chair de la MONUSCO, ce n'est pas la chair des Nations Unies. Vous savez, l'ONU était déjà ici chez nous en 1960, à la demande du président Kachagougou et de Lumumba, avec l'opération ONUC. Les soldats étrangers sont venus mourir ici, pour nous, dans les années 60. Et ça fait 4 ans, de 1960 à 1964, quand l'ONU est partie, après avoir constaté que tout est maintenant calme sur l'ensemble du Congo à l'époque. Maintenant, les Nations Unies peuvent partir. Maintenant, c'est la deuxième fois qu'ils reviennent. Tout ça, c'est... nous, Congolais, nous avons une certaine responsabilité dans ce qui nous arrive. Donc, la paix, c'est un comportement. La MONUSCO peut amener ici 50 000 soldats, 80 000 ou 100 000 soldats, mais si dans la population des Congolais n'ont pas un comportement de paix, le respect de la dignité d'autres Congolais, le respect de la tolérance politique, le respect de l'autre, la tolérance politique, la tolérance religieuse, etc., si nous n'avons pas le sens de l'État, le sens de l'intérêt général, le sens du bien commun, et si nous n'avons pas des dirigeants dignes de ce nom, eh bien, nous allons tout le temps, revenir en arrière. L'ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo, je vais répéter ça aujourd'hui, parce qu'il avait dit des choses très, très, très dures. Il a dit au Congrès, voilà, messieurs, voilà, en 1960, moi, Olusegun Obasanjo, j'étais ici dans l'armée des Nations Unies, en 1961. Je suis venu ici. Aujourd'hui, mon propre fils est dans la MONUSCO, jusqu'à bien avant, qui est venu faire encore la guerre au Congo. J'espère que mon propre petit-fils ne viendra pas encore au Congo pour calmer la situation par son désordre. Vous voyez, ça, c'est un appel de responsabilité.
Tout à fait.
Je profite de cette occasion, Jérôme Nguembo, pour dire que nous, Congolais, nous devons être sérieux. S'il y a des problèmes dans notre pays, c'est d'abord nous-mêmes. Il ne faut pas chercher des problèmes, les causes chez le voisin, chez l'étranger, méchant, etc. C'est d'abord nous-mêmes. Nous devons être responsables de notre comportement. Bien, la paix, c'est un comportement. La paix, ce n'est pas un simple mot. Et donc, nous devons inviter nos populations de base, les populations rurales, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, là où il y a des poches de résistance, où il y a des troubles, pour que nous soyons tous vigilants. On peut amener une armée de 100 000 personnes, mais si cette armée étrangère n'a pas le soutien de la population, ne trouve pas un peuple mobilisé qui veut la paix, eh bien tout ça, ça va
échouer.
Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que notre ami a
fait. Alors, merci beaucoup, professeur. Nous allons vous rappeler dans quelques minutes, je crois que la réalisation avec Julie Fézin, qui nous relaie à travers les studios de Bukavu, les temps pour nous de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent également, en fait, scruter le sujet, la thématique du jour sur notre page Facebook. 081-547-10-18, c'est pour les appels en direct.
Parole aux auditeurs.
Merci d'avoir écouté les professeurs. Merci beaucoup à vous tous qui étaient dans cette salle. Nous rejoignons d'ailleurs Descartes, à qui on allait accorder la parole avant d'ailleurs de passer à cette promo. Descartes, vous avez suivi l'AFDC, le professeur a brossé l'historique. Comment réagissez-vous, vous, en tant que société civile?
Ma réaction directement, c'est dire que je ne suis pas de l'école de la responsabilité collective. Dans ces pays, nous avons des gens qui ont prêté serment, des gens à tous les niveaux de la vie, de l'administration publique, de la nation, qui ont des responsabilités. Dire encore que la population doit encore fournir des forces, ça c'est oublier l'histoire de ces pays, l'histoire récente, parce que en 98, quand les RCD est entré dans le Sud Kivu et au Congo, c'est la population qui s'est bâtie, le pays était divisé, et mitessé l'effort, le travail important de la population, je pense qu'on n'aurait pas un État unifié aujourd'hui. Et donc, dire que la population doit encore fournir des forces sans travailler sur les causes des conflits, sans travailler sur les causes de l'insécurité que nous avons, ça c'est louper un peu l'analyse de notre contexte politique. Vous savez, JR, qu'au niveau de notre pays, nous avons des acteurs qui ont dans leur sang les conflits. Vous avez les mêmes personnes qui ont été avec l'HDL, ce sont les mêmes personnes qui sont revenues avec les RPD, ce sont les mêmes personnes qui sont revenues dans les CNDP, les M23, ce sont les mêmes personnes. Et aujourd'hui, c'est l'hypocrisie totale des acteurs politiques. L'hypocrisie totale, si vous regardez un peu les films de Thierry Michel, ce sont les mêmes personnes qui étaient à côté de Mobutu qui aujourd'hui ils sont en train de lancer des dynamiques dans notre ton d'yoté. Du coup, nous disons,
êtes-vous d'accord qu'aujourd'hui le Sud-Kivu est capable de s'engager vers une paix durable?
La population l'a montré et la population congolaise était déjà disposée. Mais ce qui est important de retenir, c'est que nous ne travaillons pas sur les causes des conflits. Parce qu'au sein de notre armée, vous êtes convaincus qu'il y a des gens qui ont été ramassés parce qu'il y avait cette dynamique de brassage, mixage, métissage, qui n'ont pas produit des effets positifs ou des effets.
Alors, maintenant, concrètement,
concrètement, nous savons que le peuple congolais doit rester effectivement vigilant, mais nous devons d'abord obtenir que le processus électoral qui est en cours ne puisse pas être étouffé. Parce que si nous avons une nouvelle classe politique et nous avons une nouvelle classe de dirigeants, je pense que ils vont peut-être mettre de l'accent à des aspects de sécurité. Parce que Bukavu aujourd'hui, pour atterrir, Bukavu aujourd'hui, nous pensons, on peut, il n'y a plus de rebelles à Bukavu, mais c'est tous les jours qu'on tue les gens à Bukavu. Il n'y a pas de rebelles dans nos territoires, mais c'est tous les jours qu'on tue les gens dans nos territoires. Et du coup, nous disons, nous devons avoir un État où l'armée.
L'autorité de l'État. Vous voulez
que l'armée se considère au service de la population, pas au service d'une classe.
Alors,
de la population.
Est-ce que le point de vue partagé par Gabriel Bachizi, activiste sociopolitique de la ville de Bukavu, Gabriel, comment vous réagissez?
À mon avis, ce point de vue est saluable même, parce que s'il faut le compléter, récemment, l'archevêché de Bukavu a été visité. Et si on touche au niveau de l'archevêché, nous, en tant que peuple, nous connaissons très bien ce que vaut un pasteur. Nous connaissons ce que vaut un archevêque. Nous connaissons ce que vaut le président de la société civile. Et en ce moment-là, celui qui vient nous provoquer, il sait par où toucher. Ça me met un peu en doute. Il n'y a pas quelque chose qui est dans un labo, quelque part, contre la paix que nous célébrons aujourd'hui.
Voilà. Alors, on va tourner de l'autre côté. Il y a Franklin qui est là, qui peut peut-être intervenir dans la salle. Franklin, alors, comment ça s'est passé à ce niveau? Est-ce qu'il y avait ce déficit de sensibilisation de la population sur le mandat de la MONUSCO à cette époque-là, où on a vu que la MONIC, en son temps, a été vraiment rejetée en bloc par la population?
Oui, j'ai arrêté.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait la manipulation politique?
Oui, les deux peuvent dire. Il y avait d'une part la manipulation politique, mais aussi il y avait une forme de sous-information. Mais aussi il y avait l'abandon de l'État. Les gens ne savaient plus à quel État se fier. Et donc l'État, la protection qui était devant elle, devant cette population, c'était la MONUC à l'époque. Et donc il fallait se réfugier derrière cette MONUC pour prétendre avoir la protection. Parce que la population a senti que l'État qui devrait la protéger est totalement démissionnaire. Et donc, il y a eu cette attaque autour de la MONUSCO parce qu'on a senti que l'État les a abandonnés. Et la population, la MONUSCO, si veut l'abandonner, il fallait mettre un peu de pression sur la MONUSCO pour voir si elle sera un peu protégée.
Alors, comment jugez-vous aujourd'hui les activités de la MONUSCO dans le suivez-vous dans le cadre du rétablissement de la paix et surtout la consolidation de cette
paix? Oui, c'est ici le cas pour moi de saluer le travail qu'a fait la MONUSCO. Donc, nous savons que la MONUSCO est en train de faire des travaux un peu louables. Nous sommes en train de voir les représentants du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, à qui je salue, qui est partant, qui se déploie partout en République démocratique du Congo. Je suppose que Martin Kobler maîtrise bien certains points de la République démocratique du Congo, dont je peux dire que certains de nos autorités ne maîtrisent pas. Nous sommes en train de voir dès la première réaction au niveau de la population sur la base. Martin Kobler est présent et on se demande est-ce que Martin Kobler est devenu le président ou le premier ministre de ce pays pour les voir partout, là où notre gouverneur, là où notre président, si je peux le dire, n'arrive pas. Et donc moi je peux dire que l'action de la MONUSCO à République démocratique du Congo est vraiment à saluer. Et là je commence par dire que c'est notre gouvernement qui est à la base. Si je remonte un peu dans l'histoire, l'histoire qui a fait que l'ONU puisse intervenir en RDC pour la première fois.
Oui, le professeur a évoqué.
Oui, effectivement, c'était l'histoire c'était le conflit entre Kassavu et Lumumba. Et aussi, nous sommes en train de les voir avec G7. Je pense qu'il y a encore d'autres conflits qui se créent. Et on risque encore de pérenniser la MONUSCO ici, sans que notre gouvernement ne puisse intervenir. Je pense qu'il y a ici le cas d'intervenir pour notre gouvernement. Notre gouvernement a la mission première de protéger ses citoyens. Le fait de rejeter la responsabilité à la population, mais non, la population n'est pas responsable de sa sécurité. Si je fais juste un exemple pour terminer, ici dans la ville de Bukavu, vous attrapez un bandit, vous population, vous le remettez entre les mains des services habilités. Demain ou après-demain, vous voyez ce même bandit circuler librement et vous vous sentez insécurisé. Et donc, si on demande la coopération, l'État doit jouer aussi bien ce travail. Lorsque la population collabore, lorsque la population accepte réellement d'être à côté des autorités, les autorités doivent aussi s'approcher de cette population-là pour prétendre avoir une paix durable dans ce pays.
Voilà, on va rejoindre également Kinshasa. Il y a un auditeur qui est en ligne, qui nous a appelé depuis Kinshasa pour intervenir dans cette émission, Maître Omar. Omar, bonjour. Maître Omar, vous êtes avec nous?
Alors bonjour, c'est Maurice de Kinshasa.
Voilà, Maurice, vous êtes avec nous. Merci de nous avoir rejoints depuis Kinshasa pour intervenir dans cette émission spéciale Parole aux auditeurs depuis Bukavu. Aujourd'hui, êtes-vous optimiste ou favorable que le Sud Kivu, singulièrement, peut s'engager également dans la voie de la consolidation durable de la paix?
Oui, merci de m'avoir associé au débat d'aujourd'hui. Je pense que nous devons d'abord commencer par saluer en fait la contribution de la MONUSCO depuis son arrivée ici, surtout avec l'avènement de M. Kobler nous avions vu vraiment que même la politique sur le plan communicationnel de la Monisco, de la Monisco plutôt, a vraiment beaucoup évolué. Parce que avant son arrivée, et pendant qu'on était encore à l'époque de la Monique, il n'y avait pas une bonne politique de communication. Et ça, c'est les entendre à nos compatriotes. Une grande majorité des Congolais pensaient que la Monisco était là pour se substituer à l'armée congolaise. C'est-à-dire que le travail qui était en fait dévolu, la mission dévolue à l'armée, à la police, devrait être faite par la Monisco. Mais avec son arrivée, nous avons compris qu'il a communiqué, il a été sur le terrain, il a fait comprendre aux gens que le travail d'abord est revenu, d'abord la première place revenait à l'État congolais. Et à l'État qui dispose en fait des moyens de l'État, qui dispose de l'armée, qui dispose de finances, qui devrait normalement d'abord actionner, qui devrait être au premier plan, et la Monisco ne pouvait venir qu'en accompagnement. Mmh. Alors, aujourd'hui, nous voyons que vraiment le bilan est vraiment positif. Parce que nous voyons que l'Est, bien que la sécurité n'est pas vraiment au rendez-vous, comme tout le monde le souhaiterait, mais néanmoins, il faudrait quand même admettre certains, quand même, une petite évolution avec la présence de la Monisco. Nous l'avions vu à l'Est du pays, là-bas, avec la rébellion de L23. Nous avions vu comment la Monisco vraiment s'était déployée. Et grâce à cette Monisco, on a pu débuter cette rébellion-là. Alors, par rapport à la perspective, en fait, par rapport à l'avenir même de la paix. Vous voyez, à l'est du pays, parce que je voudrais parler vraiment en termes de la généralité.
Oui, rapidement,
de Bukavu. Mais s'il faut donc parler même de la paix là-bas, c'est comme un luxe. Parler de la paix, c'est parler vraiment du luxe. C'est comme on nous parle du paradis par les pasteurs, les prêtres. C'est un paradis, il y aura ceci et ceci. C'est comme ça aussi que les gens voient la paix à l'est du pays. Ce sont des gens qui n'ont jamais espéré vraiment à la paix avec le régime ici. Parce que nous constatons que à chaque fois, par exemple aujourd'hui, on parle de l'instruction, ça fait une semaine, de l'armée rwandaise. Alors, c'est chaque jour, il y a l'éternance à l'est de là-bas, à Beni, chaque jour, chaque matin. Nous apprenons qu'on a tué, qu'on a massacré nos compatriotes. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Et tout ça, donc, plutôt la raison de cette situation, c'est lié à l'absence de l'autorité de l'État. C'est-à-dire, il y a un problème d'abord au niveau des leadership, au niveau du sommet de l'État. Le leadership est très faible. C'est ça qui fait que d'autres parties du pays échappent au contrôle même de l'État. Alors, nous devons penser comment il faudra renouveler vraiment la classe politique. Penser, c'est ce que nous disons qu'il faut nécessairement aller aux élections pour changer la classe dirigeante. Alors, les élections, il faut les faire maintenant conformément aux normes. Car on ne peut pas aller aux élections aujourd'hui dans les conditions actuelles, sinon nous allons toujours déshabiller parfois pour habiller pour la norme. Alors, c'est la raison pour laquelle nous disons que nous devons préparer les élections, mais néanmoins nous devons penser d'abord à réunir toutes les conditions, toutes les contraintes, à rencontrer tous les préalables. Et c'est là le fait de faire dans un dialogue inclusif.
Voilà, merci beaucoup, Maurice, merci beaucoup Maurice d'avoir appelé. Nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'il y a eu ce message à l'occasion de la Journée internationale de la paix adressée par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Dans le troisième paragraphe, il dit ceci: le rêve de paix, aussi désespérément éloigné, doit paraître dans les cœurs des peuples du monde entier. Est-ce que c'est possible? Vous êtes de l'UNC, voilà, du parti politique aussi influent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Amadou Bayou Bassiré, vous êtes secrétaire fédéral adjoint de l'UNC. Expliquez-vous le point de vue des uns des autres. Comment vous réagissez par rapport à ça?
Merci. Mon parti est très influent à travers la RDC. C'est ça que je voudrais d'abord vous saluer.
À travers la RDC.
Je voudrais vous remercier d'avoir décidé d'organiser cette émission spéciale à Bukavu. Et pour répondre au thème principal, je voudrais dire non et oui. Non, la paix n'est pas possible aussi que vous avec le gouvernement actuel. Parce que vous savez que dans certains coins de cette province, cette émission ne peut pas commencer et se terminer. Vous allez dans certains coins à Walungu, à Chabunda, à Nenga, à Sidi, ailleurs, cette émission ne peut pas commencer et se terminer. Pourquoi? C'est parce que il y a un manque de leadership visionnaire. C'est ce qui manque aux Congolais.
si on avait...
Mais comment un manque de leadership visionnaire, d'autant plus que vous avez un gouverneur, vous avez un vice-gouverneur, vous avez une assemblée provinciale, vous avez tout ça.
Nous avons d'abord une assemblée provinciale et un gouvernement provincial qui ne vit plus de la légitimité. Ils ont été élus depuis 2006, donc ils sont au-delà de leur mandat. C'est cela que nous devons dénoncer, c'est constater que au lieu de responsabiliser la population, le gouvernement devrait voir plutôt sa responsabilité à lui. Quand nous avons un seul citoyen qui a prêté serment de sécuriser les citoyens congolais, mais aujourd'hui, la majorité vient nous dire, comme la société nous dit, que c'est la responsabilité du gouvernement congolais qui n'informe pas la population. Nous disons non, la population du Sud qui vous fait très bien son travail. Mais c'est dans cette salle que le ministre provincial de l'Intérieur avait dit il y a bientôt 3 mois, 3-4 mois, que nous avons une police qui ne peut pas voir la nuit. Si vous avez un gouvernement...
Une police qui ne peut pas?
Une police
qui ne peut pas voir la nuit.
Je dis bien, c'est dans cette salle...
C'est dans cette salle, c'était à quelle occasion?
Pendant les occasions du tribunal sur le Congo, que le ministre provincial de l'Intérieur avait dit, sous le micro de ce, sous la table là, il avait dit, et devant le gouverneur, que nous avons une police qui ne peut pas voir la nuit.
Ça veut dire quoi?
Comment vous pouvez attendre de ces ministres-là de...
Non, dès qu'il y a la nuit, ça fait quoi?
Dès qu'il y a la nuit, la police ne peut pas voir. Ça veut dire qu'on ne donne pas, nous disons, on ne donne pas à nos policiers des moyens pour travailler.
Non, il ne peut pas être opérationnel la nuit.
Ça veut dire que nous avons un gouvernement qui lui-même sait qu'il ne peut pas sécuriser la population. Donc ils ne font pas attendre de lui. Le gouvernement a des services appropriés pour...
Donc il y a 3 mois que le ministre provincial a fait une telle déclaration.
Dans cette salle.
Et c'est, vous prenez cette parole pour dire ben, la paix.
Mais un gouvernement durable, compétent.
Voilà, bon.
Pour finir, comme on a si bien dit, quand dans une ville de Bukavu, on peut attaquer la CVC, nous n'avons pas jusque-là entendu la parole et du gouvernement provincial et du ministre national ou du gouvernement central. Et tout le monde fait comme si c'était normal et avant qu'on connaisse quelle en serait la conséquence.
Mm-hmm.
Mais nous devons saluer quand même le travail abattu par la MONUSCO. Tout en relevant deux faiblesses. La première, c'est la faiblesse du mandat de la MONUSCO.
Mmh.
Le premier intervenant vous a dit qu'au collège, il y avait les rebelles et la MONUSCO à côté. Parce que le mandat de la MONUSCO n'est pas si coercitif. Mais aussi...
Non, à cette époque, en 2004, il était encore une mission d'observation.
Oui, mais je crois. À tout moment,
2004,
toujours,
avant, voilà.
À tout moment, la MONUSCO n'a jamais eu un mandat, ou même quand on le lui donne, on met toujours des vigiles.
Non, c'est une mission de la paix. C'est une mission de la paix, ce n'est pas une mission de guerre.
Mais la deuxième faiblesse de la MONUSCO, ce n'est pas de la MONUSCO, mais le manque de collaboration entre la MONUSCO...
La MONUSCO vient en appui au gouvernement congolais.
Justement, le gouvernement congolais ne veut pas collaborer avec la MONUSCO. Je vois que la MONUSCO devait user de tout son pouvoir pour obtenir la collaboration franche du gouvernement congolais. Mais c'est cela qui nous demande qu'on ne peut pas avoir...
Oui, la dernière résolution parle des bons offices.
Oui, c'est cela qui, justement. Or, on ne sent pas le gouvernement disposé à obtenir ces bons offices. C'est ce qui nous demande, c'est que c'est le gouvernement qui est à l'origine du manque de la paix. Parce qu'il avait dit que la réponse était oui et non. Par oui, nous disons, il existe un plan de sécurisation de l'Est du Congo. C'est une vision et un document existe de l'Ouest-Sahara Kamere. C'est ce qui manque à être appliqué pour qu'on ait... J'ai dit le plan de sécurisation.
Est-ce que vous vulgarisez ce plan de sécurisation de l'Est? Ça, c'est votre plan.
C'est un plan qui a été adopté en 2007 par l'Assemblée nationale congolaise. Les Nations Unies l'avaient accepté. Seulement le gouvernement congolais. Alors, il faut rappeler même qu'à ce moment-là, l'honorable Pierre Kemeré était encore président de l'Assemblée nationale. Quand il est allé à l'opposition, il a même enrichi ce document au vu de ce qu'il a poursuivi. Mais on n'a jamais voulu l'appliquer. Peut-être qu'à travers les Nations Unies et la MONUSCO, on peut, au jour qui viennent, et surtout, j'espère, c'est peut-être que le jour qui sera président.
Voilà. On va faire également la parole à Aimé Jules Mourola, qui est secrétaire général du PC, Parti congolais pour le progrès, un autre parti politique de l'opposition. Parce que j'ai souligné que l'AFDC, c'est le parti de la majorité, en tout cas pas le moindre, et l'UNC et le PCP, ce sont des partis de l'opposition. Aimé, quel est votre regard par rapport à, votre analyse par rapport à cette question?
Merci beaucoup. Je crois que la paix durable que nous recherchons doit être une conséquence logique de la bonne gouvernance. Et pour ce faire, donc, la paix doit être vue dans sa globalité. Ça signifie ne pas voir la paix, la limiter au niveau de crépitement d'armes, mais il faut l'aborder dans la suppression des causes qui créent des inquiétudes, notamment donner l'eau, l'emploi, le logement, les soins de santé, ainsi de suite. Alors, pour ce faire, il faut comprendre qu'à un certain moment de cette province, on a l'impression que l'insécurité est devenue un fonds de commerce. Ça signifie on fait tout pour que, bon, on justifie sa présence. Rappelez-vous qu'en 2006 et en 2011, les collègues de la majorité présidentielle se sont fait élire sur un fonds des pacificateurs. Donc, un pacificateur a besoin qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait la non-paix pour que son statut de pacificateur soit justifié. Je voulais, pour illustrer mes propos, vous présenter encore une autre manière à la province. Elle a 8 territoires qui sont isolés les uns les autres. Et la province du Kivu est isolée aussi des autres provinces de la République. Par exemple, pour prendre seulement le territoire de Chabunda, qui a 25 km carrés et qui est situé à 101 km à vol d'oiseau, vous devez payer 350 dollars seulement pour aller, alors que ce montant suffirait pour aller Dubaï, aller et retour. Dans ce territoire, vous trouvez 10 policiers. Vous trouvez 10 policiers vieux, non armés, non équipés. Vous trouvez que dans ce village, dans ce territoire, les seules références, c'est les pasteurs et c'est les ONG. Donc l'autorité de l'État a disparu. Et vous savez, l'autorité provinciale n'est influente que seulement dans la seule commune de la ville de Bukavu. Donc si vous êtes une autorité, un gouverneur, et vous ne vous limitez que dans ce territoire, vous servez à quoi? Et à côté de lui, mais on a déjà parlé des gens qui ravissent les téléphones et ainsi de suite.
Mais non, mais comment un gouverneur peut se limiter qu'à un territoire?
C'est la question que nous nous posons tous ensemble. La preuve est qu'il n'est pas souvent là, il est toujours en voyage, et quand il est là, autour de sa maison, on vous ravit un téléphone.
Oui.
Et lorsque on vous ravit un téléphone, on recourt à la police de proximité. Oui. Quand on recherche le téléphone sonne dans les poches des policiers qui vous arrêtent. Oui. Donc, ce n'est pas des gens qui peuvent utiliser. Nous disons ceci. Là, nous pensons. Je venais d'écrire un livre, Mon pays. Il est dirige mal et n'écoute personne. Parce qu'on demande à la population de contribuer. Comment est-ce que nous pouvons contribuer autrement si, d'abord, nous subissons l'insécurité comme victime, mais aussi nous donnons nos idées. Mais personne ne vous écoute. Nos dirigeants ont l'impression de présenter pour votre image, malheureusement, le contraire. Ils mettent des casquettes sur leurs oreilles, ils bougent et ils n'écoutent personne. La seule différence, c'est que vos casquettes sont synchronisées avec les studios, mais les casquettes de nos dirigeants ne sont pas synchronisées avec le peuple. Donc, nous pensons qu'on peut bien, en vouloir à la MONUSCO. Je pense que la MONUSCO, devant un partenaire gouvernemental, qui ne prend pas ses responsabilités, ne peut rien faire, parce que si l'État ne prend pas ses responsabilités et joue son rôle de sécurité de la population, rien ne peut changer. Vous avez tantôt fait allusion aux élections. On voudrait bien, mais ces élections devraient être capables de permettre à la population de se doter des dirigeants compétents, conscients et surtout soucieux de la population. Mais si les élections sont montées, comme par exemple c'est le cas, la majorité présidentielle ne joue pas des élections. Pourquoi? Il n'a pas besoin des élections parce qu'il ne veut pas donner l'occasion à la population.
Non, il ne faut pas faire des jugements d'intention. Qui vous dit que la majorité ne veut pas des élections?
Si un poisson.
Il y a eu des députés, non, je devrais être quand même honnête, il y a eu des députés provinciaux qui ont déposé en bon et due forme leur candidature. Ça, c'est déjà une bonne intention pour le gouvernement d'aller vers les élections.
Je voudrais vous dire que si un poisson vous dit que son collègue poisson est malade, il faut le croire. Parce que moi-même, je suis politicien. Et je suis candidat. Théoriquement, le 24, 25, je devais déjà commencer ma campagne électorale. J'ai déjà tout fait. Est-ce qu'il y aura élection? Il n'y en aura pas. Ça signifie, les signes montrent que les collègues aux affaires ne veulent pas, non seulement de cette paix, mais aussi, ne veulent. Or, si on compare la durée du mandat de nos collègues aux affaires aujourd'hui, c'est la même période de vie des objectifs du millénaire pour le développement. Quand vous interrogez le rapport du PNUD, et même de la MONUSCO, vous constatez que les collections aux affaires n'ont pas été capables de réaliser les indicateurs. Ils ont même déjà proposé, et ils ont sollicité déjà l'année passée, un autre glissement de réalisation des OMD. Donc, au-delà du glissement de mandat, ils cherchent aussi le glissement des OMD. Donc, s'ils ont échoué sur ce plan-là, qu'est-ce qu'ils peuvent encore offrir? Donc, nous pensons que les élections devraient être organisées pour permettre
la population. Alors, revenons, est-ce qu'aujourd'hui, les Sud-Kivu est capable de s'engager vers une paix durable?
Exactement.
Donc, déjà, les indicateurs que vous avez donnés, c'est que c'est impossible.
Tout ce que nous avons dit, c'est impossible en face des collègues qui sont au pouvoir, un gouvernement qui est comme le nôtre, à quoi les leurs.
Voilà, on va prendre le regard, les analyses, avant de revenir à. On va revenir à vous, mais tant que prendre peut-être quelqu'un qui peut départager un peu les avis des uns des autres, c'est un analyste politique, un politologue. Alors, Kizito, c'est vrai, comment réagissez-vous par rapport à la position des uns des autres?
Bon, par rapport à la position des uns des autres, nous disons que les responsabilités sont partagées. Partagées comment? Vous savez, la MONUSCO, jadis en 2004, qu'on appelait la MONUC, a connu une certaine passivité vis sa mission d'observation. Et la population locale n'avait pas encore compris pourquoi est-ce que Laurent Kunda, qui viendrait de 200 km de la ville et qui a traversé tout le territoire de Calais et traversé l'aéroport de Kavumu où il y a une grande base de la MONUSCO, comment est-ce que cette personne est arrivée dans la ville de Bukavu? Ce sont ce genre de suspense qui ont fait à ce que la population commençait déjà à se révolter contre la MONUC à l'époque. Puisqu'on dit qu'il y a une grande base au niveau de l'aéroport de Kavumu, il y a une grande base à Calais, il y a une grande base à Oussa. Donc, à 10 ou 12 kilomètres de là. Et comment est-ce que cette personne s'est retrouvée ici? Est-ce que la MONUC ne l'a pas accompagnée?
Est-ce qu'elle n'était pas complice?
Voilà, elle n'était pas complice. Il y a eu autant de questions. Mais par après, on a aussi compris que la MONUC, grâce à la MONUC et des interventions purement diplomatiques, que ces gens ont quitté d'eux-mêmes la ville. Ça, c'est d'un côté. Du côté du gouvernement, vous savez, le gouvernement venait fraîchement d'une unification qui ne donnait pas vraiment une certaine solidité de l'équipe gouvernementale, que ce soit au niveau du gouvernement central, mais aussi au niveau du gouvernement
provincial.
Parce que nous, en sciences politiques, on a toujours dit les gouvernements de coalition partout dans le monde sont des gouvernements fragiles. Or, pour le cas d'espèce, il faut plutôt privilégier la paix et que la guerre, et en privilégiant la paix, on essaie de faire des sacrifices. Des sacrifices pour vivre en communion avec les différentes parties. À l'époque, en 2004, il fallait préserver l'unité entre les MLC, les RCD, toutes les factions primaires de rébellion avec le gouvernement. Et au prix de cette unité-là, bon, le gouvernement, vous comprenez qu'il était sérieusement fragile, n'a pas pu remplir réellement toutes ces missions. Après les élections, évidemment, il y a eu encore un autre gouvernement de coalition, ce qu'on a appelé l'AMP. C'est toujours un gouvernement de coalition. Et ça, c'est après les élections de 2006. Aujourd'hui, après les élections de 2011,
il y a
toujours encore un gouvernement de coalition.
Et aujourd'hui, il y a un gouvernement de cohésion nationale après concertation.
Bon, c'est tout ça. Et vous comprenez la fragilité qu'il y a dans tout ça. Vous aviez suivi l'histoire du G7 et consorts. C'est-à-dire, quand toujours il y a coalition, bon, le gouvernement ne remplit pas sérieusement ses missions telles qu'il devait les remplir. Parce que partout dans le monde, les gouvernements de coalition sont des gouvernements faibles.
Donc vous partagez l'avis selon lequel il faut qu'on organise des élections de 2016 pour créer une nouvelle classe politique, comme l'a dit.
Oui, je suis d'accord qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait élection pour renouveler la classe politique, mais avoir une classe politique forte, c'est là que la population doit comprendre. Avoir une classe politique forte, c'est-à-dire avoir un parti qui va gagner les élections réellement, et prendre un parti qui aura une marge de manœuvre de prendre toutes les décisions sur tout le plan en matière de sécurité.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec le reporter de Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous suivez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ces cadres d'échanges citoyens et surtout de débats démocratiques dans cette salle de collège Alpha Djiri où nous célébrons les 70 ans anniversaire des Nations Unies dans le cadre de la journée de la paix, c'est 21 septembre, sous les applaudissements des élèves, les étudiants et aussi la société civile qui se trouve dans cette salle. Nous avons le défenseur judiciaire d'entrée de jeu, nous maintenant encore dans la salle pour retrouver la population qui tient à intervenir. Alors, Kaké, vous nous dites.
Avec le micro ici.
Voilà, non, ça va. Allez-y. Ça semble aller. Allez-y.
Ok. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier pour avoir organisé cet échange avec la population ici. Mais je vous dis d'emblée que je voudrais remercier les G7 qui a accepté de se solidariser avec la majorité présidentielle. Mais je demande à Bahati Lukwebo de faire les G8 et aux autres.
Non, il ne faut pas citer.
De nous amener, je m'excuse. Oui, et aux autres qui sont dans cette même majorité, de nous amener à aller jusqu'à G50, G70 et G100 pour que.
Alors la paix durable.
Pour que nous ayons la paix durable.
Oui, la paix durable à Bukavu.
Alors, il y a un problème d'encadrement des militaires. J'ai lu dans un rapport de la NDC où on vous dit que dans la plaine de la Rougie, il y a des gens qui vous vendent une Kalachnikov à 30-40 dollars. Vous savez que dans notre province, il y a des gens qui font la location des armes. De la même façon qu'on peut faire louer une maison, vous donnez à un militaire 20 dollars, il vous donne son arme pendant des jours, vous tuez, vous égorgez, et puis vous rentrez, et la vie continue. Si vous allez maintenant là en Gouba, vous allez voir qu'il y a des militaires qui sont en train de creuser des fosses, des fosses de toilettes, qui sont en train de puiser de l'eau dans nos quartiers, dans nos territoires à l'intérieur. Ceux qui vous fabriquent des braises aujourd'hui, ce sont les militaires. Les militaires ne sont pas encadrés, les militaires n'ont pas de moyens de survie, ils n'ont pas de soins médicaux, leurs enfants ne les étudient pas, leurs femmes payent les prix.
Et paraît que la majorité des policiers aujourd'hui à Bukavu proviennent des différents pâturages qui ont existé avant.
Oui, ça c'est vrai, et qui n'ont pas assez de...
Et qui seraient eux-mêmes également à la base de certains cas d'insécurité, parce qu'ils connaissent bien certains pâturages,
oui,
qui peuvent se produire à tout moment.
Ce que vous oubliez de dire, c'est que la plupart d'eux viennent aussi des pays voisins. Vous savez, le plus grand parti qui dirige aujourd'hui le pays est venu des pays voisins, parce qu'il est fils de l'Afdel. Et ce qui fait que, quand vous essayez un peu de voir nos frontières sont tellement perméables. Il y a des gens des services de sécurité qui vivent à l'étranger, mais qui travaillent au pays. Il y a d'autres qui viennent avec leur militaire et garde-corps, ils viennent se reposer au pays, et le soir, ils rentrent dans les pays voisins. Ça facilite l'insécurité. Quand vous êtes dans la plaine de la Rougie, vous sentez vraiment que...
Donc, il faut d'abord sécuriser nos frontières.
Il faut sécuriser nos frontières, mais avec ces régimes, ce n'est pas possible parce qu'ils sont venus de l'autre côté.
Voilà. Alors, on va prendre quand même, on a pris assez de temps. Voilà, on va prendre quand même d'autres personnes qui vont intervenir, qui sont dans la salle. Je crois qu'on va prendre deux ou trois avant de retrouver encore Kinshasa. Il y a une dame, si vous nous excusez, voilà, permettez-nous d'abord de prendre une dame qui est appelée de très loin de Boston, qui est en train de suivre cette émission. Alors, je ne sais pas si Julie, il y a madame Josephine qui est en ligne. Allô? Voilà, alors, donc, on prend quelqu'un qui est dans la salle.
Oui,
vous vous présentez d'ailleurs.
Merci beaucoup. Moi, c'est Bienvenu Karakoubwa. Je suis président du Centre africain de paix et gouvernance. Je suis président du Conseil d'éthique, déontologie et contrôle de la société civile de la province. Je m'excuse beaucoup. Je suis théoricien de la paix et praticien. C'est-à-dire que je suis spécialiste en éthique de paix et développement. Et je pratique ça. Je vais pouvoir m'excuser pour ça parce que c'est très important.
Mais c'est
on a posé la question sur savoir est-ce qu'il y a la chance pour une paix durable.
Mm-hmm.
Et j'ai vu que les réponses étaient beaucoup orientées vers l'activisme politique plutôt que vers le fond sur la question. Et la question qu'on devait se poser, c'est que pour que le Sud Kivu puisse avoir une paix durable, qu'est-ce qu'il faut faire?
Tout à fait. Quels sont les préalables selon vous?
La paix durable exige qu'on attaque les racines, messieurs les journalistes. Et les racines de la perturbation de la paix au Sud Kivu, c'est connu. Il y a d'abord la crise politique. C'est-à-dire que les crises ont débuté quelque part par manque d'organisation politique, le pouvoir autoritaire.
Est-ce qu'à ces jours, après l'organisation des élections de 2006 et celle de 2011, peut-on encore parler de la crise politique? Je crois que les gens se sont mis d'accord, sont allés ils ont voté pour les uns et ils ont en tout cas refusé de déposer un mandat pour les autres. Donc je crois que c'est déjà, il n'y a pas une crise politique.
Moi je vais y arriver parce que c'est là que j'aborderai la mission, la préoccupation de la mission de l'ONU comme parti qui a accompagné le processus, si vous le permettez.
Allez-y.
Il y a également, on a évoqué ici la mauvaise gouvernance. Est-ce que la mauvaise gouvernance a déjà trouvé des solutions? On a parlé du chômage.
Est-ce que c'est là que je ne suis pas d'accord que l'on puisse rendre la victime
responsable.
On les rend criminels. Il ne faut pas rendre la population criminelle. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas la population qui va chasser le chômage. Il y a des hommes que la population a pu donner ce pouvoir-là de pouvoir les faire. Et c'est là qu'il faut évaluer. Nous savons que la pauvreté de la population, c'est parmi les germes. Tous ces groupes armés puisent dans la population qui est assez pauvre. S'il n'y a pas de solution à ce niveau-là, il faut savoir que la paix s'éloigne. Mais aussi la gestion des ressources minières, vous savez que c'est un problème chez nous. Est-ce qu'il y a un problème déjà à ce niveau-là? Moi, je pense qu'il y a un tas de problèmes auxquels on pouvait mettre aussi la mauvaise gestion des diversités culturelles ou ethniques. Et ça, c'est la responsabilité du leadership. Je pense que c'est ça la préoccupation. Quant à la question de savoir est-ce que la chance est là, mais il faut, la MONUSCO et le gouvernement, je pense qu'il faut prendre la part. Ce sont les partenaires et tous deux sont responsables de la situation. Comment? Je pense que la mission de la MONUSCO comme mission de l'ONU en RDC est connue. Aujourd'hui, le mandat de la MONUSCO est axé sur trois piliers principaux. Il y a d'abord la protection des civils. Et dans la protection des civils, la résolution 2211 souligne que la MONUSCO ou la brigade d'intervention de la MONUSCO peut intervenir pour traquer, pour éradiquer les groupes armés avec ou sans les FARDC.
Le mandat que la MONUSCO n'avait pas il y a 10 ans.
Oui, j'ai dit que c'est maintenant depuis mars.
Depuis mars.
Qu'il a ce mandat.
Tout à fait.
D'ailleurs, depuis 2014, avec la résolution.
Avec l'accord cadre de l'Addis Abeba.
2147.
Tout à fait.
Et moi, je me pose la question, quelle est la responsabilité de la MONUSCO, d'abord de la MONUSCO à ce niveau-là? Est-ce que, parce que nous évaluons, quand on évalue une mission d'été, on doit l'évaluer en fonction de ses moyens et de ses objectifs. Est-ce que l'ONU aujourd'hui peut être satisfaite de la mission, de sa mission en RDC avec les moyens qui sont affectés à cette mission par rapport au travail réalisé? Je veux vous rappeler, messieurs les journalistes, que l'ONU, a la force de la MONUSCO aujourd'hui en RDC, c'est plus de 22 000. Plus de 22 000, où il y a plus de 20 000 soldats. Et qui dépense plus de 1,4 milliard par an. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons être satisfaits de ça? Devant une population qui est meurtrie, qui est dans la misère, qui n'a pas des infrastructures, est-ce que l'ONU est fière de sa présence pendant plus de 15 ans à RDC? C'est ça la question. La question est technique. La question, ce n'est pas. Et l'analyse du mandat serait aussi technique plutôt que ce que nous faisons. C'est
alors, la responsabilité, non, la responsabilité du gouvernement.
Par rapport au gouvernement de la République. Et là, c'est très, très fondé. Parce que nous reconnaissons que les institutions sont très fragiles. Et nous savons qu'il n'y a pas. Nous trouvons qu'il n'y a pas une volonté engagée pour pouvoir restaurer cela. Et ça, c'est engagé. Quelqu'un a écrit dans un livre très important, le Congo malade de ses hommes. Je pense que vous ne connaissez pas ce qu'il est d'ici. Quelqu'un d'autre venait de faire une déclaration que le Congo est malade. Mais le Congo est malade de quoi? De ses institutions, de son leadership. Et je pense que la population doit être très consciente.
Et comment caractérisez-vous les institutions de Sud Kivu? L'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial et également d'autres structures.
Non, moi je pense que ce qui les caractérise des malades, ils ont des sous-bâtiments. Mais moi je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Parce que nous venons de quelque part et c'est un processus. Et c'est là que j'en appelle au rôle de la MONUSCO ou au rôle de la mission de l'ONU. La mission de l'ONU a joué un rôle de tierce partie. Les tierces parties pour accompagner le processus. Et alors, il ne faut pas qu'elles soient en train de croiser les mains pour dire que non, ce n'est pas notre responsabilité, c'est votre responsabilité. Et j'aurais voulu que, dans des cadres bien appropriés, l'on puisse parler de l'évaluation de la MONUSCO. Moi, personnellement, je suis en train de mener une étude qui sera rendue publique en octobre prochain sur la construction de la paix en RDC et le rôle de la MONUSCO.
Voilà, ça ne manquera pas.
Et ça, c'est clair.
Il faut nous...
Je pense que la question est profonde.
Il faut nous mettre la puce à l'oreille, nous aurons les documents.